Aureliano II s'en retourna chez lui avec ses malles, convaincu que tous les habitants de Macondo, et pas seulement Ursula, attendaient qu'il cessât de pleuvoir pour mourir. Il les avait vus en passant assis dans les salles communes, le regard perdu, les bras croisés, sentant passer le temps d'une seule coulée, un temps laissé en friche, puisqu'il était inutile de le diviser en mois et en années, et les jours en heures, quand on ne pouvait rien faire d'autre que contempler la pluie. Les enfants accueillirent gaiement Aureliano II, qui se remit à jouer pour eux de son accordéon asthmatique. Mais ce concert ne retint pas autant leur attention que les séances d'encyclopédie, si bien qu'ils reprirent leur petite réunion dans la chambre de Mémé, où l'imagination d'Aureliano II transforma le ballon dirigeable en éléphant volant, cherchant un endroit où dormir parmi les nuages. Un jour, il tomba sur un cavalier que son faste exotique n'empêchait pas de garder un air de famille, et après l'avoir longuement examiné, il en arriva à la conclusion que c'était un portrait du colonel Aureliano Buendía. Il le montra à Fernanda, laquelle admit également qu'il y avait un air de ressemblance entre cet homme à cheval et le colonel, mais aussi avec tous les membres de la famille, bien qu'il se fût agi en vérité d'un guerrier tartare. Ainsi passa pour lui le temps, entre le colosse de Rhodes et les charmeurs de serpents, jusqu'au jour où son épouse lui annonça qu'il ne restait plus que 6 kilos de viande salée et un sac de riz au grenier. « Et alors, que veux-tu que j'y fasse » demanda-t-il. « Je n'en sais rien, » répliqua Fernanda. « Ces choses-là regardent les hommes. »« Fort bien, » répondit Aureliano II. « On y pourvoira quand il aura cessé de pleuvoir. » Il continua à montrer plus d'intérêt pour l'encyclopédie que pour ce problème domestique. Même lorsqu'il dut se contenter de miettes de viande et d'un peu de riz à déjeuner. « Il est impossible de rien faire maintenant, » disait-il. « Il ne va pas pleuvoir toute la vie. » Et plus il renvoyait aux calendes grecques les nécessités pressantes du grenier, plus grande se faisait l'indignation de Fernanda, jusqu'à ce que ses protestations accidentelles, ses explosions peu fréquentes, finissent par déborder en un torrent impossible à contenir, véritablement déchaîné, qui commença un beau matin comme une monocorde ritournelle de guitare, et au fur et à mesure que s'avançait la journée, monta d'un ton de plus en plus nourri, de plus en plus généreux. Aureliano II ne prit conscience de cette litanie de reproches que le jour suivant, après le petit déjeuner, lorsqu'il se sentit tout étourdi par un bourdonnement qui se faisait encore entendre plus limpide et sur des notes plus hautes que la rumeur de la pluie. Et ce n'était rien d'autre que Fernanda, qui déambulait dans toute la maison, se plaignant qu'on l'eût éduquée comme une reine pour finir comme une boniche dans une maison de fous, avec un mari fainé en idolâtre libertin qui se couchait de tout son long en attendant que du ciel le pain lui tombât tout cuit, tandis qu'elle s'esquintait les reins à essayer de maintenir à flot un foyer retenu par des épingles à nourrice, où il y avait tant à faire, tellement de choses à supporter et à redresser, depuis que le bon Dieu faisait naître le jour jusqu'à l'heure de se coucher, qu'elle se mettait au lit les yeux remplis de poudre de verre, et malgré tout cela, personne ne lui avait dit « Bonjour Fernanda, tu as passé une bonne nuit Fernanda ?» et on ne lui avait pas davantage demandé, ne fût-ce que par déférence, pourquoi elle était si pâle et pourquoi elle se réveillait avec des cernes violets. Bien qu'elle n'attendît certainement pas cela du reste de la famille, qui, en fin de compte, l'avait toujours considérée comme une gêne, comme la guenille servant à prendre la marmite sans se brûler, comme un vulgaire pantin dessiné sur le mur, et qui était toujours en train de déblatérer contre elle dans les coins, la traitant de bigote, la traitant de pharisienne, la traitant de fiefée coquine, et jusqu'à Amaranta, qu'elle repose en paix, qui avait osé dire à haute voix qu'elle était de celles qui confondent leur rectum avec la semaine sainte, béni soit Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Et elle avait tout enduré sans rien dire, se pliant à la volonté du Père éternel, mais elle n'avait pu en supporter davantage quand ce scélérat de José Arcadio II avait prétendu que la perdition de la famille venait de ce qu'on eût laissé entrer à la maison une précieuse ridicule. Imaginez un peu, une précieuse qui aurait voulu porter la culotte. Mon Dieu, on aura tout vu, une précieuse, fille de la mauvaise salive et de la même pâte que ces freluquets envoyés par le gouvernement pour massacrer les travailleurs. Non mais dites-moi, et ne se référait ainsi à personne d'autre qu'à elle-même. Filleule du duc d'Albe, dame dont le haut lignage donnait des crises de foi aux femmes des présidents, quelqu'un qui appartenait comme elle à la noblesse de sang et qui avait le droit de signer de 11 patronymes de la métropole ibérique et qui était la seule mortelle en ce village de bâtards à ne pas s'en mêler quand elle avait 16 couverts différents devant elle, pour s'entendre dire après par son adultère de mari, mort de rire, qu'un si grand nombre de cuillères et de fourchettes et de couteaux et de petites cuillères ne convenait pas aux bons chrétiens mais aux 1000 pattes. et la seule aussi à pouvoir dire les yeux fermés, quand on devait servir le vin blanc, de quel côté et dans quelle coupe, et quand on devait servir le vin rouge, dans quelle coupe et de quel côté, et non pas comme cette paysanne d'Amaranta qu'elle repose en paix qui croyait que le vin blanc se servait de jour et le vin rouge le soir, et aussi la seule sur tout le littoral à pouvoir se vanter de n'avoir jamais fait ses besoins ailleurs que dans des pots de chambre en or, pour que le colonel Aureliano Buendia, qu'il repose en paix, ait eu ensuite l'audace de lui demander avec sa mauvaise bile de franc-maçon d'où elle avait mérité semblable privilège. Si c'était qu'elle ne chiait pas de la merde, mais des fleurs d'Astromélia. Rendez-vous compte, s'entendre dire des choses pareilles. Et pour que Renata, sa propre fille, qui de manière indiscrète l'avait vu faire son gros besoin dans sa chambre à coucher, ait pu répondre qu'en vérité le pot était tout en or et en choses héraldiques, mais que ce qu'il y avait dedans était bel et bien de la merde organique, et pire encore que les autres parce que c'était de la merde de précieuse ridicule. Non mais imaginez, sa propre fille. Tant et si bien qu'elle ne s'était jamais fait d'illusions sur le restant de la famille, mais avait droit de toute façon d'attendre un peu plus de considération de la part de son époux, puisque pour le meilleur et pour le pire, le sacrement du mariage en avait fait son conjoint, son ayant cause, son dépuceleur légal, et qu'il avait pris sur lui en toute liberté et en toute souveraineté la grave responsabilité de la faire sortir du vieux manoir paternel, où jamais elle ne fut privée, ni ne souffrit de rien, où elle tressait des palmes funéraires pour le plaisir de s'occuper, et puisque son parrain lui-même avait envoyé une lettre avec sa signature et le sceau de sa bague imprimée dans la cire à cacheter, simplement pour dire que les mains de sa filleule n'étaient pas faites pour les besognes de ce bas monde. Sauf de jouer du clavecin. Et malgré tout cela, son fou de mari l'avait fait sortir de chez elle avec un tas de reproches et de menaces, et l'avait ramené jusqu'en ce chaudron d'enfer où régnait une telle chaleur qu'on ne pouvait respirer. Et avant même qu'elle n'eût fini d'observer l'abstinence de Pentecôte, il avait déjà filé, avec ses malles transhumantes et son accordéon de fêtard, prendre du bon temps dans l'adultère avec une misérable dont il lui suffisait de voir les fesses, tant pis ce qui y est dit, qu'il lui suffisait de voir remuer ses fesses de pouliche, pour deviner que c'était une. Une tout le contraire d'elle-même. Elle qui savait rester une dame dans son château comme à la porcherie, à table comme au lit, une dame de haute naissance, craignant Dieu, obéissant à ses lois, soumise à ses desseins, et avec laquelle il ne pouvait évidemment pas faire ses parties de jambes en l'air, ni mener cette vie de va-nu-pied qu'il connaissait avec l'autre, qui sans doute se prêtait à tout, comme les matrones françaises, et pis encore, en y réfléchissant bien, parce que ces dernières avaient du moins l'honnêteté de placer une petite lampe rouge à leur porte. Des cochonneries pareilles, imaginez un peu. Il ne manquait plus que ça. Avec la bien-aimée fille unique de Doña Renata Argote et Don Fernando del Carpio, et plus particulièrement de celui-ci, ça va de soi, le saint homme, chrétien de la plus haute espèce, chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre, faisant partie de ceux qui reçoivent directement de Dieu le privilège de se conserver intact dans leur tombeau, la peau nette et brillante comme le satin d'une robe de fiançailles, les yeux vifs et diaphanes comme des émeraudes. « Voilà qui n'est pas vrai, » l'arrêta Aureliano le second. « Quand on l'a apporté, il en pestait déjà. » Il avait eu la patience de l'écouter toute une journée jusqu'à ce qu'il l'a pris en faute. Fernanda n'y prêta aucun cas mais baissa la voix. Ce soir-là, pendant le dîner, l'exaspérant bourdonnement de cette litanie avait chassé jusqu'à la rumeur de la pluie. Aureliano le second mangea peu, le nez dans son assiette, et se retira de bonne heure dans sa chambre. Le lendemain, au petit déjeuner, Fernanda était toute tremblante, l'air d'avoir passé une mauvaise nuit, mais semblait s'être totalement soulagée de ce qu'elle avait sur le cœur. Pourtant, quand son mari demanda s'il ne lui serait pas possible de manger un œuf à la coque, elle ne se borna pas à répondre simplement que les œufs étaient terminés depuis la semaine précédente, mais se lança dans une violente diatribe contre les hommes qui passaient leur temps à adorer leur nombril et avaient l'aplomb de demander ensuite qu'on leur servît des foies d'alouette. Aureliano le second emmena les enfants regarder l'encyclopédie, comme toujours, et Fernanda fit semblant de mettre de l'ordre dans la chambre de Mémé pour qu'il l'entendît marmonner qu'il fallait avoir un sacré culot pour dire à ces pauvres innocents que le colonel Aureliano Buendia était représenté dans l'encyclopédie. L'après-midi, tandis que les enfants faisaient la sieste, Aureliano le second prit place sous la véranda et Fernanda vint le poursuivre jusque-là, le provoquant, l'asticotant, tournant autour de lui avec son implacable bourdonnement de grosses mouches, disant que, comme de juste, alors qu'il n'y avait plus que des pierres à se mettre sous la dent, son mari restait assis comme un sultan de Perse, à contempler la pluie parce qu'il n'était rien de plus qu'un fainéant, un maquereau, un bon à rien, plus mou qu'une houppe de coton, habitué à vivre des femmes, et convaincu qu'il s'était marié avec l'épouse de Jonas, celle qui était restée si tranquille après l'histoire de la baleine. Aureliano le second l'écouta pendant plus de 2 heures, imperturbable, comme s'il était devenu sourd. Il se garda de l'interrompre jusqu'à 1 heure très avancée de l'après-midi, où il ne put plus supporter ce roulement de grosses caisses qui lui faisait mal à la tête. « Tais-toi, par pitié !» la supplia-t-il. Fernanda, au contraire, haussa le ton. « Je n'ai aucune raison de me taire, lui dit-elle. Celui qui ne veut pas m'entendre n'a qu'à partir. » Aureliano le second perdit alors le contrôle de lui-même. Il se redressa sans hâte, comme s'il ne songeait qu'à s'étirer, puis, avec une rage parfaitement contrôlée et méthodique, il saisit l'un après l'autre les jardinières de bégonia, les baquets de fougères, les pots d'origan, et l'un après l'autre les fracassa par terre en mille morceaux. Fernanda eut peur, car jusque-là, elle n'avait pas pris une conscience très claire de la terrible force de frappe intérieure qu'avait sa litanie. Mais il était trop tard pour vouloir revenir en arrière. Emporté par ce torrent libérateur impossible à contenir, Aureliano le second brisa le verre de la vitrine et, une à une, sans se presser, sortit les pièces du service et les réduisit en poussière contre le sol. Systématiquement, dans le plus grand calme, avec le même flegme dont il avait fait preuve en tapissant toute la maison de billets de banque, il se mit ensuite à briser contre les murs les cristaux de bohème, les vases décorés à la main, les tableaux de jouvencel dans des gondoles chargées de roses, les miroirs aux cadres dorés et tout ce qu'il était possible de casser de la salle commune au grenier, et il termina par la grande cruche qui se trouvait dans la cuisine et qui éclata au milieu du patio dans un grand bruit creux d'explosion. Puis, il se lava les mains, se jeta la toile cirée sur le dos et avant que minuit n'eût sonné, s'en revint avec quelques lambeaux coriaces de viande salée, plusieurs sacs de riz et de maïs pleins de charançons et quelques régimes de bananes tout ratatinés. Désormais, les vivres ne vinrent plus à manquer.